Et donc, on en arrive à Apple, ce qui ouvre le chapitre sur l'émergence de la micro-informatique, mais émergence de la micro-informatique vue à travers le cas d'Apple. Alors, Apple, au départ, c'est une start-up assez typique et même plus précisément une start-up informatique assez typique. Alors pourquoi je précise informatique? Parce que ça fait partie des domaines dans lesquels on peut assez souvent générer du chiffre d'affaires assez rapidement. Et donc, on n'est pas dans les cas les plus poussés de ce que j'ai évoqué hier sur les tours de table successifs nécessaires pour financer le développement dans les deux sens du terme d'ailleurs, hein. D'abord le développement technologique, puis après le développement au sens croissance. Et donc on va voir que Apple devient assez vite rentable. Donc c'est en cela que c'est plutôt typique d'une start-up informatique que d'une start-up tout court. Mais sinon, elle a plein d'éléments qui sont presque le. Enfin, qui font presque partie de l'image qu'on a autour de la start-up, hein, puisque. Vous savez que peut-être qu'en Californie, on aime bien les innovations qui ont démarré dans des garages. Alors ça, c'est lié au fait que messieurs Hewlett et Packard ont lancé leur activité dans ce qui deviendra beaucoup plus tard la Silicon Valley en démarrant dans leur garage. Et donc, quelque part, c'est resté très associé à cette image de la start-up californienne, sachant que ça va un peu plus loin, parce que c'est pas un hasard si c'est là aussi où est née la démarche du Lean Startup, etc. C'est-à-dire que le fait de bricoler des choses, au-delà de l'anecdote du garage en tant que tel, hein, ça veut dire quand même qu'on a démarré modeste en bricolant et qu'on a assez vite été testé le marché. Donc on est loin de 5 ans de recherche et développement avant de sortir un produit. Et donc, très vite, après la création de leur société, en fait, ils vont sortir un premier ordinateur. Comme c'est le premier, et bon, pour l'imagination, là aussi, c'est pas extraordinaire, et comme c'est le premier, il l'appelle Apple One. Bon, moins, ça veut bien dire qu'il ne compte pas s'arrêter là. Voilà à quoi ressemblait l'Apple One. C'est quand même. Alors, le boîtier en bois, c'est Steve Jobs qui tenait. Voilà, pour lui, le plastique, c'était moche. Et donc, voilà, c'est lui qui a eu l'idée de faire le boîtier en bois. Ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue de sa vie, mais voilà, comme ça, vous voyez à quoi ressemblait le premier ordinateur d'Apple. Alors, selon les sources, il s'est vendu entre 50 et 100 exemplaires de l'Apple One. Assez vite, il lance un projet pour succéder à ce premier essai, hein, qui est presque un MVP en l'occurrence. C'est un projet plus ambitieux parce qu'alors là, pour le coup, il est plus. Notamment, Steve Jobs pense qu'il y a un gros potentiel autour des ordinateurs personnels. Hein, et donc, il veut essayer de créer un ordinateur qui soit plus convivial, plus facile d'accès. Et donc, il crée l'Apple II ou Apple II, hein, ce qui est logique et en même temps pas super imaginatif pour leur deuxième micro-ordinateur. Alors, celui-là, il va jouer un rôle extrêmement important. Dans l'histoire de la micro-informatique et du coup dans l'histoire de l'informatique tout court, puisque c'est le premier, ou en tout cas un des trois premiers, parce que ça s'est fait à quelques mois près, mais on peut considérer que c'est le premier à avoir vraiment fait décoller le marché, en tout cas très clairement, le premier à faire décoller le marché professionnel. Un peu par chance. Alors là, on n'est pas dans la sérendipité, parce que ce n'est pas l'invention qui est surprenante. À un moment donné, il y a quelqu'un, je ne me souviens plus du tout de son nom, qui imagine que on pourrait utiliser des ordinateurs pour organiser des grands tableaux dans lesquels on pourrait faire des opérations, et notamment, bah, ça permettrait, si on change une variable, de changer automatiquement le résultat dans une autre cellule. Vous avez reconnu le tableur. Et donc, le premier tableur s'appelle donc VisiCalc, et il semblerait, parce que ça, j'avais lu ça dans un ouvrage qui est pas un ouvrage d'historien avec plein d'archives, etc., mais bon, qui a l'air quand même relativement sérieux. Il semblerait que ce soit largement le hasard qui ait fait que le programmeur en question ait choisi de commencer par programmer VisiCalc sur un Apple II. Apparemment, il y avait en gros trois ordinateurs qui commençaient à se vendre un peu à l'époque. L'Apple II en faisait partie, mais il y avait aussi le Commodore PET, c'est comme ça qu'il s'appelait, et le Tandy, je ne sais pas comment il s'appelait, mais voilà, c'est une autre marque d'ordinateurs qui avaient eux l'avantage d'avoir tout un réseau de distribution. Et donc, il semblerait qu'il ait commandé en fait des ordinateurs chez Commodore et chez Tandy, mais qui n'ont pas été livrés tout de suite, alors qu'il avait sous la main un Apple II. Et donc, du coup, bah, il a commencé par le programmer sur l'Apple II. Et donc, quand il est sorti sur le marché, il n'était disponible que pour l'Apple II. Et du coup, bah, ça a fait de l'Apple II l'ordinateur de référence au niveau notamment des utilisations professionnelles grâce à VisiCalc. Et donc, on a ici aussi un bel exemple hein, de ces phénomènes d'externalité de réseau qu'on avait évoqué avec les magnétoscopes, puisque au début, c'est le hasard. Hein, VisiCalc apporte des utilisateurs supplémentaires à l'Apple II. Parce que bah, il n'est disponible que sur cet ordinateur-là dans un premier temps. Du coup, bah, il y a des gens qui achètent l'Apple II spécialement pour pouvoir utiliser le tableur. Le résultat, c'est que il se vend plus d'Apple II que des autres ordinateurs. Et que du coup, bah, ça devient d'autant plus intéressant pour les programmeurs bah, de prévoir enfin de programmer leur logiciel pour l'Apple II plutôt que pour les autres. Et du coup, bah, ce qui est probablement un pur hasard au niveau de VisiCalc bah, ne le sera plus tout à fait. Par exemple, le premier traitement de texte pour micro-ordinateur, là, c'est pas le premier traitement de texte tout court, hein, mais le premier traitement de texte pour micro-ordinateur sort aussi sur l'Apple II l'année suivante. Là, il est fort probable que ce ne soit pas le hasard, mais que ce soit parce que l'Apple II est l'ordinateur, enfin le micro-ordinateur le plus répandu chez les professions libérales et les PME. C'est plutôt ça, hein, la clientèle. Les grandes entreprises ne se sont pas encore. Voilà, ils ont gardé leur gros système et ne se sont pas précipités vers les micro-ordinateurs globalement. Et donc, dans cette clientèle-là, bah, l'Apple II étant majoritaire, on a tout intérêt, si on fait un traitement de texte, à le programmer avant pour l'Apple II. Et donc, vous voyez, du coup, ça réengendre à nouveau un supplément de valeur pour l'Apple II par rapport aux autres, et ainsi de suite. Bon, je vous ai mis une petite photo d'un Apple II. C'est pas l'Apple II d'origine, hein. Celui-là, il est déjà assez évolué, avec ses deux lecteurs de disquettes magnifiques. Et vous noterez que là, cette fois, on a prévu un moniteur. Alors ça nous amène au processus de diffusion des innovations. Puisque bah, vous voyez bien que le fait qu'il y ait maintenant des logiciels préconçus à ce qu'on a appelé longtemps, on ne fait plus trop la différence maintenant, je crois que c'est un peu passé dans le vocabulaire, mais des progiciels, c'est-à-dire des logiciels qui n'ont pas été adaptés spécifiquement pour une entreprise, mais qui sont des logiciels standards qui sont vendus à tout le monde, eh bien, qu'ils soient disponibles pour cet ordinateur-là, bah, ça étend considérablement le public qui peut être potentiellement concerné. C'est-à-dire que c'est plus seulement des geeks qui adorent programmer, essayer des nouveaux trucs. Là, maintenant, ça peut être bah, le comptable du quartier qui se dit mais je vais gagner plein de temps avec un tableur. Et donc, ça nous amène au processus de diffusion d'une innovation. Et on l'a déjà cité, hein, mais l'auteur un peu de référence, alors il y en a d'autres, hein, mais c'est le premier à avoir proposé une vraie théorie de la diffusion de l'innovation et qui fait encore assez largement autorité. Il y a plein d'études qui ont été faites sur une multitude d'innovations qui ont montré que globalement, son système marchait quand même assez bien, enfin son modèle marchait assez bien. Lui, à l'origine, il l'a constaté en étudiant à la fin des années 50 la manière dont s'était diffusée une nouvelle variété de pommes de terre parmi les agriculteurs américains. Donc au début, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique, mais après, lui-même, puis plein d'autres chercheurs vont essayer de voir si ça marche aussi sur plein d'autres marchés. Et donc, selon lui, le processus de diffusion d'une innovation a une courbe qui a cette forme-là. Alors attention, hein, les différentes phases peuvent avoir des durées très très différentes, hein, les unes des autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des fois une longue phase d'amorçage ou une courte phase d'amorçage. Vous pouvez très bien avoir une diffusion auprès de la majorité qui se fait plus doucement que sur mon schéma. Hein, donc, mais par contre, on va toujours ou presque toujours retrouver cette courbe en S. Et donc, bah, là, je caractérise juste les phases. Mais on va voir après à quoi ça correspond, hein, on va les reprendre en détail. Donc la phase d'amorçage, c'est une phase pendant laquelle on va conquérir assez peu de nouveaux utilisateurs par rapport à la population totale visée. Et puis à un moment donné, on va atteindre un certain seuil critique et au moment où ce seuil est atteint, eh bien, on constate quasi systématiquement une très forte enfin, une forte accélération de la diffusion de l'innovation. Et puis, bah, pendant un certain temps, elle va se diffuser de manière à peu près constante. Évidemment, c'est pas aussi. Et puis, bah, quand on va commencer à approcher de la saturation, c'est-à-dire quand la quasi-totalité de la population est équipée, ben en fait, les derniers à s'équiper sont souvent plus longs à convaincre. Et d'ailleurs, on n'atteindra pas nécessairement 100%. D'où cette forme-là. Alors, surtout, Rogers nous donne une explication, hein, de ça. Et il explique par des caractéristiques des clients ou consommateurs potentiels. J'ai toujours tendance à écrire pour simplifier, puis parce que c'est ce qui parle le mieux, puisqu'on est tous consommateurs, mais bah, comme d'ailleurs vous l'avez vu, puisque l'exemple d'origine, c'est la diffusion d'une variété de pommes de terre parmi les agriculteurs, donc on est sur du business to business, son modèle fonctionne aussi en business to business. Et donc, il avait montré que, il y avait plusieurs catégories de clients ou de consommateurs et que bah, finalement, ils se répartissaient dans la distribution entre eux, suivaient une loi normale au sens bah, de la loi statistique normale. Et donc, il distingue parmi ses clients consommateurs cinq catégories. La première, il va les appeler les innovateurs, ce qui peut être trompeur, hein, parce qu'on parle ici de consommateurs ou de clients innovateurs. Donc, en réalité, c'est pas des, ils vont pas nécessairement introduire des changements dans le produit, hein. Ce sont bien des utilisateurs. Mais voilà, lui a choisi de les appeler innovateurs. Leur particularité, c'est qu'ils sont activement à la recherche d'innovation. Voilà, on verra pourquoi plus tard. Les adopteurs précoces, c'est un profil assez proche, mais quand même un petit peu moins à la pointe de la recherche des toutes dernières innovations. Mais comme leur nom l'indique, hein, ils adoptent assez rapidement les innovations. Ensuite, il y a la majorité précoce, la majorité tardive, et puis ce qu'il appelle les retardataires. Et du coup, si on dessine une répartition dans la population, hein, vous voyez, hop, et puis là je mets le nombre de clients potentiels, ceux-là je les ai appelés 1, ceux-là 2, tiens 2. Cela 3, cela 4. Hop. Voilà. Oula. Eh bien, je peux les répartir de cette façon-là. Et donc là, ici, on va avoir les innovateurs. Ici, on va avoir les adopteurs précoces. Ici, la majorité précoce. Ici, la majorité tardive. Et ici, les retardataires. Et ceux parmi vous qui aiment les maths, vous aurez remarqué que si on considérait que le schéma de la diapositive d'avant était une fonction continue, ce qui n'est pas le cas, hein, mais bah ça pourrait être la forme de la dérivée. Vous voyez, au début, ça augmente peu, puis il y a une accélération, et puis on atteint un moment où la courbe monte le plus, et puis bah, progressivement, ça se ralentit, et puis ça se ralentit de plus en plus, jusqu'à n'avoir plus que des incréments très lents de nouveaux utilisateurs. Donc voilà le lien entre les catégories et la loi normale. Vous voyez que c'est bien symétrique, simplement, il a coupé en deux innovateurs et adopteurs précoces, qui à eux deux font 16%, hein. Alors que les retardataires, il a pas distingué des un peu retardataires et des très retardataires. Donc c'est pour ça que ce n'est pas les mêmes pourcentages. Tac, tac, tac. Il y a un crayon, mais il n'y a pas de gomme. Bon, ok. Comment je sors de là? Allez, ça. Ah non, il me remet le crayon. Désolé, il y a encore quelques fonctions que je maîtrise. Bon, bah, c'est pas grave. On va laisser le crayon. On va essayer de ne pas écrire. Ah, mais si, c'est là. Hop. Donc ça, hop, c'est pour sélectionner. Et puis d'abord, on efface. Voilà, c'était étonnant. Donc, ce qu'on peut dire déjà d'une manière globale, on va détailler un petit peu plus hein, ensuite, c'est que en moyenne, ceux qui sont parmi les premiers à adopter une innovation ont tendance à avoir un niveau de revenu et un niveau d'éducation plus élevé. Donc là, dit comme ça, on peut se dire bah, ça s'applique encore qu'aux consommateurs. Non, non, c'est vrai aussi des entreprises, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont en moyenne plus rentables et dont le niveau de qualification des salariés est plus élevé. Donc vous voyez, on peut tout à fait faire le symétrique en B2B. Alors, les sujets, je réponds au chat. Les sujets, ils vont être diffusés au fur et à mesure des thèmes auxquels ils se rapportent. C'est pour ça, par exemple, que, vous voyez, on a parlé de la sérendipité. Hop, je vous mets un sujet sur la sérendipité. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, vous allez avoir les différents sujets qui vont vous être donnés peu à peu, en décalant à chaque fois. Je vous laisserai à peu près 3 semaines pour les faire à chaque fois. Donc, les dates se suivront comme ça. Je ne vais pas vous donner tous les sujets maintenant, parce que si je vous donnais tous les sujets d'un coup, il faudrait que je les donne à la fin, une fois que vous avez le cours qui est censé quand même vous aider à y répondre, dans la plupart des cas. Même si ce n'est pas forcément dans le premier cas, il y a un peu plus de recherche personnelle et d'analyse personnelle. Enfin, dans tous les cas, il y a de l'analyse personnelle, mais il y a des sujets qui seront plus directement liés et qui mobiliseront vraiment les outils vus en cours. Donc, je vais éviter de vous donner tous les sujets d'un coup. Ça vous permet d'étaler, vous, votre travail. Donc, c'est pour ça que je les donne au fur et à mesure. Quand on aborde un thème pour lequel je veux donner un sujet, je vous donne le sujet en question. Comment ça pour éviter d'en faire trop? Je souris, hein, parce que j'ai compris que c'était que vous ne vouliez pas dépasser une norme que je ne vous ai pas donnée. Mais dit comme ça, un étudiant ou une étudiante, pour moi vous appelez iPhone 2, dire pour éviter d'en faire trop, ça peut être mal interprété, hein. J'attends quelques pages. En général, c'est autour de 5 pages sur des sujets comme ça. Peut-être que sur celui-là, comme il est quand même sur une histoire donnée, unique, sur un sujet assez pointu, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera moins, hein, de 5 pages. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Je donne ça à titre purement indicatif. Ça ne veut pas dire que si vous avez 3 pages, c'est que. Ça doit pas aller et qu'il faut que vous rajoutiez des choses à tout prix, hein. Donc, et je pense que sur ce sujet-là, ce sera probablement plus souvent 2 ou 3. Mais vous pouvez tout à fait en faire plus si voilà, l'histoire vous passionne, que vous la reconstituez de manière très détaillée et que vous analysez chaque point en essayant de faire des liens avec d'autres exemples. On ne sait jamais, hein, vous pouvez être passionné. Évidemment, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je ne donne pas de nombre de pages plafond. Je sais bien que de toute façon, vous ne me rendrez pas un mémoire, a priori. Donc voilà. Mais pour que vous ayez un ordre de grandeur, forme, pas de forme extrêmement précise, hein, je conseille simplement plutôt de faire sous traitement de texte que sous des logiciels type PowerPoint, parce que le côté bullet points, comme on dit, du PowerPoint, incite moins à expliquer et à argumenter. On a tendance à balancer les points comme ça sans les argumenter. Or, évidemment, moi, pour évaluer quelle est votre valeur ajoutée en termes d'analyse, etc., j'ai besoin de l'argumentation qu'il y a derrière. Si vous me donnez juste des éléments du type n'avez pas les compétences marketing et que vous ne mettez rien derrière, je vais être un petit peu frustré, vous voyez. Donc, du coup. C'est plutôt façon Word, hein, mais ça peut être un autre logiciel. Et sur le e-campus, vous pouvez rendre dans pas mal de formats, mais dont les deux plus courants, le PDF et le Word. L'un des petits avantages pour moi, mais je ne vous en tiendrai pas du tout rigueur si vous ne le faites pas, c'est que quand c'est en PDF, je peux corriger directement sur l'écran, enfin en restant dans le e-campus. Si c'est en Word, je clique sur le lien et ça m'ouvre le fichier, ce qui n'est pas bien grave, hein, vous voyez. Donc voilà. Si, seul petit point, Oui, quoi que non, dans un cas comme ça, je vais vraiment directement. Mais d'une manière générale, parce que vous pouvez avoir l'impression que comme vous rendez dans la rubrique devoir, ben vous n'avez pas besoin de mettre votre nom. Mettez-le quand même sur vos documents, votre nom, parce que si j'en ouvre plusieurs en même temps, vous voyez. Ah bah ben oui, faut ajouter tout le monde au groupe. Faut pas créer des standards concurrents avec deux groupes WhatsApp différents. Bon, je repars à ma phase d'amorçage. Donc, bah, comme je l'ai déjà un peu présenté, hein, ça correspond à une diffusion assez limitée. Et en fait, ça correspond à la diffusion essentiellement auprès de la catégorie innovateur. Ce n'est pas les plus difficiles à convaincre, hein, puisque, je l'ai dit là aussi tout à l'heure, hein, ils sont à la recherche d'innovation. À la fois, chez eux, les freins à la diffusion sont plus faibles que dans le reste de la population. Les deux principaux freins, hein, c'est les risques et les coûts. Donc ça, ce sera étudié de manière plus détaillée plus loin dans le cours. Mais vous voyez que puisqu'ils sont à la recherche active d'innovation, bah, pour eux, ils sont prêts à prendre un peu de risques, évidemment pas des risques mortels, hein, mais des risques de déception par rapport aux produits qui ne donneraient pas les résultats escomptés, par exemple. Pour eux, c'est pas un gros problème. Par ailleurs, puisqu'ils ont un niveau de revenu plus élevé, la question du coût joue moins dans leur cas que dans le cas de la majorité de la population. Alors, du coup, l'innovation se diffuse si tout va bien, hein, parce qu'il peut y avoir un échec cuisant, vous n'arrivez pas à convaincre les innovateurs, ils n'achètent pas tous tout quand même, hein. Donc si vous arrivez à lancer la diffusion dans cette catégorie-là, ça peut aller assez vite parmi eux. Mais l'une de leurs enfin, de leurs caractéristiques, c'est que ils ont plutôt un réseau social plutôt plus étendu que la moyenne, mais avec une diversité dans le réseau qui n'est pas la plus forte. Donc du coup, en gros, ils sont plus en contact avec d'autres innovateurs qu'avec des adopteurs précoces, des personnes de la major ou des entreprises de la majorité, etc. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'ils ne sont qu'entre innovateurs, hein, qu'il y a une sorte de secte des innovateurs. Il ne faut pas caricaturer, c'est des moyennes, hein. Alors, le résultat de ça, c'est que si jamais les innovateurs n'adoptent pas une innovation, bah, vous voyez bien que vous n'avez pas l'amorçage. Donc, il y a des probabilités qu'elle ne décolle jamais. C'est très rare qu'on arrive à sauter par-dessus les innovateurs et les adopteurs précoces. Les seuls cas, ce seraient des innovations qui ne seraient pas du tout des innovations de sophistication, mais des innovations de simplification. Donc là, éventuellement, ça pourrait sauter par-dessus ces catégories-là, mais quand même, en général, on suit bien le processus qui est décrit ici. Par contre, il faut à un moment donné arriver à convaincre d'autres catégories que celle-là. Celle-là, encore une fois, si vous avez quelques atouts, c'est vraiment pas la catégorie la plus difficile à convaincre. Mais voilà, elle n'a pas tant de liens que ça avec les autres catégories, donc à un moment donné, il va falloir que ça embraye sur au moins une autre catégorie. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une accélération de la diffusion. Alors, j'ai mis décollage des ventes. Ça peut être source de confusion, puisque la courbe des ventes ressemble un peu à la courbe de. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez que si vous êtes sur des biens d'équipement un peu durables, les ventes correspondent à l'augmentation du nombre d'utilisateurs, en gros. Mais par contre, si vous êtes sur soit des produits pour lesquels des personnes peuvent en acheter plusieurs, soit sur des produits de renouvellement, où vous êtes obligé d'en racheter régulièrement, bah, peut y avoir un découplage entre les ventes et le nombre d'utilisateurs. Parfois, vous pouvez, par exemple, réussir à augmenter les ventes sans augmenter le nombre d'utilisateurs. En augmentant la fréquence à laquelle ils vont racheter un nouveau produit. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, j'essaierai de penser à corriger sur les slides que je mettrai en ligne. C'est surtout un décollage de la rapidité de diffusion de l'innovation. Et ça correspond en général, c'est autour de 5% de la population visée en général. De mémoire, je crois que dans la plupart des cas, c'est entre 3,5 et 6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand on est autour de 5% de diffusion, vous voyez que même si vous n'avez probablement pas encore convaincu tout à fait tous les innovateurs, parce que j'y reviendrai, mais tout le monde ne, comment dire, n'acquiert pas les innovations exactement dans le même ordre. Il y a des adopteurs précoces qui vont acquérir l'innovation avant certains innovateurs parce qu'elle leur plaît particulièrement. Mais bon, pour faire simple, en admettant qu'on ait quasiment saturé les innovateurs, ben on voit que les innovateurs, c'est de toute façon 2,5%. Donc si on est entre 3,5 et 6, ça veut dire qu'on commence à se diffuser de façon un peu significative chez les adopteurs précoces. Et ces adopteurs précoces, ils ont des caractéristiques assez intéressantes. C'est eux qui ont le réseau le plus diversifié, donc ils vont servir de relais, en quelque sorte, hein, vers d'autres catégories. Et puis c'est aussi chez les adopteurs précoces qu'on a le plus grand nombre de personnes qui sont susceptibles, par leur comportement, d'en entraîner d'autres, ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Donc voilà, ça explique. Mais si je veux aller encore plus loin et si je veux vraiment expliquer le phénomène d'accélération lui-même, eh bien, il y a au moins trois phénomènes qui vont donner ce côté, pff, ça décolle. Le premier, c'est un effet de diffusion de l'information, tout simplement, hein, parce qu'au moment où vous vous souvenez encore une fois que les innovateurs, ils recherchent activement des innovations. Donc, bah, si c'est dans le domaine professionnel, ils vont fréquenter les salons où il y a des présentations de produits high-tech. Si c'est un particulier, il va lire la presse spécialisée, etc. Donc, du coup, ces personnes-là vont être au courant d'une innovation alors que la majorité de la population ne sait même pas encore que ça existe. Il est évident que quand vous avez MIT qui vend ses premiers milliers d'ordinateurs et puis R2E en France qui en a écoulé peut-être 500, la grande majorité des Américains ou des Français n'avaient encore jamais entendu parler du micro-ordinateur. Donc ils ne risquaient pas d'en acheter puisqu'ils ne savaient même pas que ça existait. Eh ben, donc il y a un effet où ben, le fait qu'il y ait plus de personnes qui possèdent l'innovation en question fait que eux-mêmes donc ils vont rencontrer d'autres personnes et c'est là où joue le fait qu'ils ont un réseau à la fois assez large et diversifié, c'est que du coup ben, ils vont avoir un effet de contagion en quelque sorte. Et d'ailleurs parmi les autres chercheurs qui ont travaillé sur la diffusion, on parle parfois, enfin assez souvent, des modèles de Bass, BA2S, et finalement, ce sont des modèles qui empruntent beaucoup dans leur logique au modèle épidémiologique des maladies. Voilà. Donc, C'est la même chose. À un moment donné, vous avez quelques personnes qui ont la grippe, ils vont la passer à leurs voisins, et puis les voisins eux-mêmes, quand vous avez 100 personnes qui ont la grippe, ils vont rencontrer plus de personnes que quand vous en aviez 10. Et du coup, si eux-mêmes, si chaque personne la passe en moyenne à 10, ça va passer très vite à 1000, puis à 10 000, et puis ainsi de suite. C'est pour ça que pendant le Covid, on suivait de très près le nombre de nouveaux cas contaminés pour une personne. Et on savait que la courbe allait fléchir quand on tombait sous la barre des 1. Donc c'était un indicateur suivi de très près. L'autre effet, c'est un effet d'imitation. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps qu'il y a une dimension sociale, hein, dans la consommation, et que on consomme aussi, consciemment ou inconsciemment, pour montrer son statut social, et aussi pour se sentir plus inséré dans une catégorie à laquelle on se réfère. Ça peut donner un effet où, en gros, à un moment donné, si vous étiez cadre et que vous n'aviez pas un PDA, un Personal Digital Assistant, c'était que probablement vous n'étiez pas très au fait des nouvelles technologies, que vous étiez un peu has-been. Donc en gros, comme vous voyez tout le monde avec des PDA, vous finissez par demander à être équipé en PDA. Ça a été la même chose avec les BlackBerry après, hein, donc avec les smartphones, et ainsi de suite. Les Américains, ils sont très sensibles, hein, à cet effet de consommation ostentatoire, ont donné à ce phénomène un nom courant que je trouve assez parlant, qui est Keeping Up with the Joneses. Les Joneses, c'est les Dupont américains, en gros, hein, c'est un nom très commun. Donc ça veut juste dire que si votre voisin a acheté un nouvel équipement qui renforce son statut social, et que vous n'achetez pas le même équipement, c'est probablement que vous avez moins bien réussi socialement que lui. Donc du coup, ça va vous inciter à acheter la même chose. Et puis, les externalités de réseau que l'on a étudiées. Donc, vous vous souvenez, hein, de cet effet d'accélération. Il joue plus ou moins d'un produit à l'autre, hein, comme on l'avait dit, mais vous voyez que ça peut, dans certains cas, accélérer considérablement la diffusion. Pensez à l'Apple II par rapport à VisiCalc, par exemple. Ensuite, finalement, ces effets-là, ils vont se prolonger, hein, à un moment donné, on va dépasser les adopteurs précoces et on va toucher la majorité précoce. Et donc, la majorité précoce, comme ils sont quasiment 3 fois plus nombreux que les adopteurs précoces, même si ça se diffuse à l'intérieur de la catégorie au même rythme, on voit qu'on va avoir quasiment 3 fois plus de nouveaux utilisateurs. Parfois, il y a un ralentissement de la diffusion. Vous voyez, il y a mon. Je vais me remettre en arrière. Oui, je devrais remettre. Ah, voilà. Là, vous avez parfois la courbe qui décolle. Et puis là, au lieu de suivre la courbe que je vous ai montrée, elle fait ça. Et alors après, si tout va bien, elle retrouve sa forme normale. Et en fait, cette période, alors ici, je l'ai faite longue, ils ont eu un peu de mal à comprendre, visiblement. C'est ce que Moore appelle le chasm. C'est un grand fossé, si vous voulez, le chasme. Et ce fossé, en fait, c'est le fossé qui sépare les attentes de la majorité d'une population par rapport aux attentes des adopteurs précoces. Hein, ils ont souvent une approche plus rationnelle. Pour eux, La nouveauté n'est plus un atout en soi. Ils ne sont pas à la recherche de la nouveauté pour se distinguer, enfin beaucoup moins. Et donc, il va falloir des produits à la fois plus simples, je rappelle qu'ils ont aussi en moyenne un niveau d'éducation moins élevé, dont l'utilité saute davantage aux yeux, avec des prix inférieurs, etc. Et donc si, parce que ce n'est pas toujours si évident hein, de comprendre à quel moment vous basculez des adopteurs précoces vers la majorité tardive. D'abord parce que vous ne connaissez pas toujours vraiment très précisément la taille de la population visée. Il peut y avoir des utilisateurs à la marge qui n'étaient pas prévus et donc qui viennent tromper les chiffres. Par exemple, au moment où les comptables ont commencé à acheter des ordinateurs, si pour vous, vous aviez votre... vous suiviez l'évolution en connaissant les théories de Rogers, vous allez voir qu'il y a un nombre d'utilisateurs qui explose et vous ne comprenez pas trop pourquoi, puisque les geeks sont déjà très largement équipés et que donc normalement ça devrait se ralentir. Vous voyez, il y a des phénomènes comme ça qui font que les populations se mélangent. Encore une fois, tous les innovateurs ne vont pas acheter tous les produits avant tous les adopteurs précoces. C'est une tendance, hein. Ils vont en moyenne adopter les innovations plus tôt. Et donc, ça fait que ce n'est pas si net. Il n'y a pas un moment donné où vous dites, ah, ça y est, je suis à 16% ma population équipée. Donc, j'ai équipé 100% des innovateurs, 100% des adopteurs précoces. Et maintenant, c'est la majorité précoce. Et donc, je change ma communication, je simplifie mes produits, je réduis les prix. C'est évidemment pas si simple que ça dans la réalité. Et donc, c'est un peu plus flou le moment où vous passez de l'un à l'autre. Et donc, Moore a repéré le fait que très souvent, quand il y avait ce ralentissement, c'était lié au fait que les entreprises continuaient à développer leurs produits, à communiquer, etc., comme elles le faisaient pour les adopteurs précoces, alors qu'en fait, elles sont passées à la majorité précoce et que donc il y a un décalage entre ce que font les entreprises et les attentes de ses clients et consommateurs. Et puis, pourquoi est-ce que le rythme de diffusion se ralentit? Tout simplement parce que mes trois phénomènes que j'ai évoqués tout à l'heure, ils vont tous se ralentir. D'abord, il y a de moins en moins de personnes ou d'entreprises qui découvrent l'innovation, puisque là, ça y est, elle est très largement diffusée. Donc, il y a quand même très peu de personnes aujourd'hui, par exemple, qui n'ont jamais vu un téléphone mobile. Donc, évidemment, vous avez beaucoup moins de personnes qui découvrent ce que c'est qu'un smartphone. Et c'est la même chose qui se passe au niveau des épidémies. Hein. À un moment donné, quand dans une saison, une grande majorité de personnes a eu la grippe, eh bien à ce moment-là, il y a de moins en moins de nouvelles personnes contaminées. Et chaque personne qui a la grippe, du coup, en contaminera moins de une. Et à partir du moment où chaque personne en contamine moins de une, eh ben, hop, ça va faire fléchir le nombre de malades. C'est pour ça qu'on suivait ça avec tant d'attention au moment du Covid. Donc il y a ce premier phénomène-là. Le deuxième phénomène, on voit bien qu'à ce moment-là, la grande majorité de la population étant équipée, il n'y a plus tellement de phénomènes où le fait d'être équipé, est valorisant socialement, ou donne un avantage concurrentiel pour ce qui est des entreprises. Donc du coup, cet effet-là a tendance à diminuer aussi. Et enfin, les externalités de réseau ne jouent plus beaucoup non plus. Hein. Quand l'iPhone a été le premier smartphone à proposer une plateforme en ligne pour télécharger des applications, les premières applications qui ont été mises sur la plateforme ont donné réellement plus de valeur à l'iPhone et ont donc participé à sa diffusion. Par contre, là, je ne sais pas à combien on en est, mais je ne sais pas, on doit être à 2 ou 3 millions d'applications sur la plateforme. Il est évident que la 2 987 694e application, à moins que ce soit une application extraordinaire, elle ne va pas rajouter beaucoup de valeur à l'iPhone. Donc on voit bien que ce phénomène-là aussi, il se grippe en quelque sorte. qui explique le ralentissement. Bon, ça, je vous laisserai le lien sur le e-campus. Mais c'est une vidéo où la personne essaye de comprendre quels seraient les moyens de lancer un peu le phénomène de diffusion pour la voiture autonome. Et alors, il y a. Vous le regarderez, il y a quelques petites choses sur lesquelles je ne suis pas trop d'accord avec sa présentation des choses. Alors, je vous le dis quand même, parce qu'il vaut mieux que vous le sachiez avant. Parce que, voilà, sinon, on risque de toute façon de jamais revenir dessus. Elle va, vous allez voir, présenter les entreprises, les flottes d'entreprises, comme de potentiels innovateurs et adopteurs précoces, alors que l'essentiel de la population constituerait la majorité. Et donc, elle va derrière développer toute une argumentation sur le fait qu'il faut commencer par toucher les flottes d'entreprises et que c'est seulement dans un deuxième temps que ça se diffusera largement auprès de la population générale. Alors, le raisonnement global, moi, ça me va, il est assez convaincant sur le fait que les entreprises ont plus d'intérêt à avoir des voitures autonomes dans leur flotte et que donc ça se tient de viser prioritairement les entreprises. Par contre, je ne suis pas d'accord avec elle lorsqu'elle dit que les entreprises sont les adopteurs précoces du marché, parce qu'en fait, la théorie de Rogers, elle s'applique pour une population donnée. Et là, en l'occurrence, il y a deux populations, les particuliers et les entreprises. Et parmi les entreprises, vous avez des innovateurs, des adopteurs précoces, une majorité précoce, une majorité tardive et des retardataires. Et parmi les particuliers également. Donc, du coup, on ne peut pas dire les entreprises sont des adopteurs précoces et les particuliers sont des adopteurs plus tardifs. Vous voyez? Donc, voilà, quand vous regarderez, gardez cette nuance en tête. Mais néanmoins, l'argumentation globale, je la trouve intéressante par rapport justement à ce qu'on vient de présenter. Alors, deux petites nuances qui ne remettent pas en cause en soi, hein, la théorie de Rogers, mais qui sont là pour éviter des simplifications. D'abord, tous les consommateurs n'adoptent pas toutes les innovations dans le même ordre, hein, ça je l'ai déjà dit. Je dis souvent aux étudiants que si on prend moi, je ne sais pas dans quelle catégorie je suis, mais en tout cas, je sais parce que j'ai regardé les chiffres à l'époque que j'ai été dans les 1 premier pourcent à adopter Internet en France. Mais que j'ai pas du tout été dans les 1 premier pourcent à adopter le téléphone mobile. Au début, j'ai tout de suite vu l'intérêt de l'Internet. Je faisais ma thèse à l'époque, donc aller avoir plein d'informations à ma disposition sur un réseau, c'était d'une utilité extraordinaire, même s'il n'y avait pas encore du tout tout ce qu'il y a aujourd'hui, hein. Mais malgré tout, j'avais trouvé quelques éléments sur le web pour ma thèse. Et puis voilà, téléphone mobile, pour moi, oh, j'allais être dérangé tout le temps, je ne voyais pas l'intérêt d'être tout le temps joignable. Bon, puis, le jour où je suis tombé en panne, en rase campagne, et donc sans possibilité d'appeler, j'ai compris que ça pouvait être intéressant, et dans la semaine suivante, j'ai eu un téléphone mobile. Mais du coup, j'étais probablement encore dans la majorité précoce, mais j'étais même plus dans les adopteurs précoces. À mon avis, il y avait déjà 30 ou 40% de la population qui devait être équipée en téléphone mobile. On voit que je suis loin, c'est loin de. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que, voilà, c'est toujours quasi exactement de la même façon. Il y a quand même des innovations qui sont particulièrement intéressantes pour certains, qui vont faire que des adopteurs précoces, voire quelques personnes de la majorité précoce vont adopter telle innovation très vite, alors que parce qu'ils n'y voient pas un intérêt majeur, certains innovateurs n'adopteront que plus tard certaines innovations. Donc encore une fois, c'est une tendance assez forte, hein. D'être un innovateur ou un adopteur précoce, etc., c'est quand même assez fort, mais ça ne veut pas dire que. Et du coup, bah, Encore une fois, l'une des conséquences, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce que vous arrivez à 15-16% de ce qui vous semble être la population visée, équipée, que vous êtes sûr que vous avez équipé à peu près tous les innovateurs et les adopteurs précoces et que vous êtes en train de basculer sur la majorité précoce. En fait, vous avez peut-être déjà basculé vers la majorité précoce et vous ne le savez pas, vous n'avez pas fait le nécessaire. Et du coup, ça va créer ce fameux chasme. Et l'autre point, c'est que, et ça vient compliquer les choses, c'est qu'évidemment, une innovation va trouver de nouvelles utilisations, et ces nouvelles utilisations vont faire augmenter la population. C'est-à-dire que si vraiment je prends juste, non pas le pourcentage, mais le nombre d'utilisateurs, pour reprendre un exemple qui vous est familier, puisqu'on l'a étudié avant, qui est le magnétoscope. Et je fais un énorme schéma. Et ça, c'est le temps, hop, le temps long. Et puis au début, bah, vous avez Ampex qui lance le magnétoscope. Mais donc, ça se diffuse auprès des studios de télévision. Voilà. Et puis, à un moment donné, ça se diffuse auprès des hôpitaux, des lycées, etc. Puis là, ça se ralentit peut-être. Puis après, ça se diffuse auprès de la population générale. Et vous voyez que si vous regardez comme ça, vous allez dire, mais il y a un ralentissement là, ça s'accélère, il y a un ralentissement là, ça s'accélère, il y a un ralentissement. Donc, la théorie de Rogers est fausse. En fait, non. Si vous prenez la population des studios de télévision, bah, vous allez limiter à ça. Et vous allez dire, bah, effectivement, il y a un amorçage qui a été plus court que ce qui apparaît ici. Il y a une accélération et puis il y a un ralentissement. Bon, évidemment, mon schéma est mal fait, mais on arrive à peu près à distinguer la courbe en S à l'intérieur de la population. De même, après, chez les institutionnels, vous allez avoir une courbe en S. Et après, ben, dans la population générale, vous allez avoir une courbe en S. Simplement, vous, quand vous voyez le nombre, comme vous n'allez pas suivre forcément de manière ultra détaillée quel est le pourcentage des hôpitaux équipés, quel est le pourcentage des lycées équipés, quel est le pourcentage des particuliers équipés, vous allez avoir surtout une donnée brute qui est le nombre. Et donc ça va venir encore compliquer votre anticipation, puisque du coup, vous allez ne pas savoir si vous êtes déjà passé dans une autre catégorie de la population ou pas. Donc vous êtes peut-être encore aux adopteurs précoces dans votre catégorie d'origine, mais vous observez une accélération qui vous fait penser que vous êtes en train de passer à la majorité, à la majorité précoce, sauf que peut-être que cette accélération, elle est liée au fait que vous êtes en train de commencer à conquérir les innovateurs d'une autre population. Donc, par exemple, je sais pas moi, les cabinets d'expertise comptable dans le cas des micro-ordinateurs. Donc voilà, il faut avoir ces deux éléments-là en tête qui font qu'il ne faut pas avoir une vision un peu mécanique où vous allez forcément voir de manière aussi nette que dans la théorie la courbe se mettre en place et que bah, il suffit de repérer à quel pourcentage de la population on est pour savoir dans quelle catégorie, enfin quelle catégorie viser en priorité. Si les choses étaient simples en management, ça se saurait. Voilà, bah ça nous permet de clôturer un peu sur cette théorie de la diffusion des innovations. Et du coup, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, sauf question hein, de votre part, bien évidemment. Je ne cherche pas à les. Mais sinon, on va s'arrêter à cette petite parenthèse théorique et après, bah, on retrouvera nos amis d'Apple, qu'on a laissés assez vite ici, hein, mais qu'on va retrouver juste après. Voilà, et donc la semaine prochaine, hein, parce que je ne pouvais pas positionner d'autres cours, bah, de toute façon, oui, on est jeudi. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Monsieur,
Oui.
excuse-moi, j'aimerais savoir juste, est-ce que vous auriez des conseils ou des ressources qui pourraient nous être utiles dans le premier devoir que vous venez nous donner tout à l'heure?
Alors, j'ai pas de. de sources précises à vous donner, mais avant de vous donner le sujet, j'ai été vérifier que l'on pouvait trouver facilement plein de choses sur l'histoire du four à micro-ondes. Hein, donc, je me suis assuré en amont que vous n'alliez pas vous retrouver désespéré, totalement désespéré à ne pas réussir à trouver la moindre information sur le sujet.
Ok, ça marche, c'est cool, ça rassure. Merci. Bonne soirée aussi.
Merci.
Bonsoir.